enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je me suis rendu compte qu'il y avait longtemps que je n'avais pas fait une petite rubrique de mots. Vous savez, les mots tendance. Hein? J'aime bien de temps en temps faire la rubrique des mots tendance, ceux qu'il faut arriver de temps en temps à placer dans une phrase pour avoir l'air d'être vraiment in. Hein? Un temps, il fallait absolument dire consensuel. Maintenant, et après, en ce moment surtout, c'est un petit peu le temps des vacances, tout ça. Alors, si vous arrivez à dire festif, ludique, essayez de placer jubilatoire et vous êtes bon. Alors, cette semaine, j'ai entendu un mot que je trouve qu'on n'entend pas souvent, il m'a bien plu, et peut-être vous le dites souvent, mais moi, ça m'a intéressé, c'est consumériste. J'ai trouvé que c'était bien. Vous le dites des fois, non? Ah, ben, vous devriez essayer, hein? C'est bien, consumériste, hein? Alors, ça veut dire, c'est un petit peu le caractère de la tendance que les consommateurs ont à regrouper leurs intérêts pour les défendre. Mais c'est aussi un peu employé maintenant dans un sens plutôt de signaler le caractère des gens qui consomment à tout va, avec, vous voyez, c'est un peu cette frénésie de la consommation comme ça, hein. C'est un peu ce qu'on appelle la fièvre acheteuse, quoi, si vous voulez, hein. C'est un peu ça. OK. Voilà. Alors, si vous arrivez à le placer comme ça, de temps en temps, vous avez l'air d'être à la page. Même le mot consommateur, j'étais étonné au début où je lisais la Bible d'avoir trouvé le mot consommateur dans la Bible. Vous savez qu'il y avait le mot consommateur, hein? Parce que souvent, consommateur, pour nous, ça fait seulement penser à 60 millions de consommateurs, quoi, hein. Consommer, ça veut dire manger ou, à la rigueur, acheter aussi. Mais le mot « consommer » a aussi en français un autre sens qu'on n'emploie pas très souvent, qui est celui de d'amener quelque chose à sa pleine réalisation, à son accomplissement total. Et c'est dans ce sens que dans Hébreux 2:12, on dit que Christ est le consommateur de la foi. Mais si vous ne savez pas ça, évidemment, la première fois vous tombez sur ça, le consommateur de la foi, on voit pas bien comment Jésus est le consommateur de la foi. Est-ce qu'il va faire ses courses, il achète de la foi? Non, bon, c'est... Hein. Alors, et ça veut dire que c'est celui qui amène la foi à son accomplissement complet, total. C'est lui qui l'a fondé, c'est lui qui a posé les bases, mais en plus, il le réalise totalement. Il est le consommateur de la foi. Vous voyez, on est loin, on parle souvent de cette société de consommation, la société où on prend, où on veut toujours que tout soit rapide, entièrement disponible, tout de suite, immédiat. Et c'est, à mon sens, un des aspects qui est à l'opposé de ce qui est dans la profondeur du caractère, hein. La profondeur du caractère de Jésus. Et j'aimerais ce matin reparler un peu de certains aspects du caractère de Jésus, parce que il demeure notre modèle, hein, et il le demeurera toujours, éternellement. Nous pourrons toujours, c'est ça qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est que c'est pas une loi, c'est pas des échelons à passer, à gravir les uns à la suite des autres. La sanctification, c'est pas une espèce de course comme à des diplômes, hein, mais c'est tendre vers un modèle qui est parfait. Ce modèle est Jésus. Et nous tendons toujours. Et est-ce que vous pensez à ça quelquefois dans la vie, dans la journée, dans la semaine? Est-ce que le caractère de Christ est en train de se forger en moi? Est-ce qu'il est en train de grandir? Est-ce qu'il se développe, hein? Est-ce que je ressemble, hein, à Jésus? Non pas pour l'image, non pas pour que les gens qui me voient puissent s'en apercevoir. Ça c'est encore une conséquence indirecte, mais seulement pour le fait lui-même, pour que Dieu soit réjoui de trouver son Fils, l'image de son Fils en chacun de nous. Dieu pour Dieu, pas pour ce que ça pourrait nous rapporter. On vient pas consommer de l'Église, on vient pas consommer de la prédication, on vient pas consommer de la communion fraternelle. On vient pour que le caractère profond de Jésus s'enracine en nous, pour que nous soyons changés, transformés. Et c'est la transformation de ce qu'on est qui va amener la transformation de ce qu'on fait, de ce qu'on agit, et non pas l'inverse. Hein. Et quelque chose de Jésus que j'ai trouvé, qu'on trouve dans les évangiles souvent, c'est cette expression « Jésus était ému de compassion ». Et je voudrais juste parler un peu de ça ce matin, un petit peu ensemble. Ému de compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion ? La compassion, comme chacun sait, ça vient de cum patiri en latin. Bon, souffrir avec un. C'est-à-dire que c'est une identification avec la souffrance de l'autre. C'est pas la différence avec la pitié. Vous voyez, la pitié, c'est seulement le fait d'en être spectateur et d'éprouver un sentiment. Mais la compassion va plus loin que ça. La compassion, c'est pas la pitié. La compassion, elle produit, bien sûr, elle est aussi un sentiment, mais la différence, c'est que la compassion veut faire quelque chose. La compassion amène à un investissement. Alors que la pitié peut rester simplement spectatrice. Et on voit souvent que Jésus était ému de compassion. Alors on va lire pas mal de versets, mais bon, c'est un peu normal quand même aussi dans une église, hein? 9, Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36, voilà, comme ça ils seront affichés aussi. Au fur et à mesure, vous pouvez les lire. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez, les termes montrent que non seulement Jésus était ému de compassion, mais on sent que l'auteur de l'évangile, il participe aussi. Les termes qu'il choisit, languissant, abattu, montrent que lui-même, il l'a constaté, il l'a vu, et que ça l'a aussi affecté. On retrouve cette notion juste un petit peu après encore. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et encore le verset suivant, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez ici que la compassion de Jésus n'a pas été une compassion stérile. C'est pas seulement un sentiment, mais ça l'a poussé à quelque chose. Ça l'a poussé à investir quelque chose, à communiquer quelque chose à ses disciples pour leur demander de faire quelque chose, et c'est-à-dire de prier pour que Dieu envoie des ouvriers. La compassion produit quelque chose. Et je vous cache pas que je vous poserai tout à l'heure, à la fin, vers quand on aura fini, vers 14h, là, ce petit moment de réflexion, je vous poserai une question, et je me poserai cette question. Où en sommes-nous avec la compassion? Quel degré de compassion vit en nous? Bon, mais on va y revenir. Matthieu 14, 14. Hein. Matthieu 14, 14. On va faire une petite liste comme ça. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Voilà, il a eu de la compassion. Alors la compassion a éveillé chez lui, a produit chez lui la volonté de faire quelque chose, et Jésus a guéri les malades. Quelquefois, nous nous demandons pourquoi certaines des potentiels que Dieu a dit nous donner en tant que disciples et a dit donner à l'Église, pourquoi ces choses ne se réalisent-elles pas autant que nous le désirons? Pourquoi est-ce qu'elles ne se réalisent pas autant que ce qu'il semble que Dieu ait promis. Mais je crois que Dieu, ça nous le savons, Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il pouvait faire, il le fait encore et il veut le faire encore. Simplement, il faut que l'outil, le canal, soit coopérant. Et je crois que ce qui nous manque quelquefois, eh bien, c'est la qualité du cœur qui motivait l'action de Jésus. Jésus était ému de compassion. Et alors, il a guéri les malades. Mais quelquefois, j'ai l'impression que nous voyons seulement les malades et nous voulons les guérir. Mais si cette étape, si notre cœur n'a pas été gagné, si notre cœur n'est pas gagné au sentiment de Dieu vis-à-vis de ceux qui sont en difficulté, si ça devient un exercice religieux, si ça devient un exercice spirituel, alors il ne faut pas nous étonner que nous soyons secs et que ça ne débouche sur rien. Jésus était ému de compassion. En grec, ému de compassion, c'est un mot qui est la racine du mot contient le terme des entrailles. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui prend à l'intérieur. Vous savez, des fois vous apprenez par exemple une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle subie comme ça, et tout d'un coup ça vous serre à l'intérieur. Hein. Vous êtes ému, vous êtes troublé au dedans. Combien de fois Jésus était comme ça, saisi complètement, intérieurement. C'est pas simplement une petite émotion passagère, mais c'est quelque chose qui vient du plus profond. Si nous n'éprouvons jamais ce genre de choses, peut-être qu'il faut nous demander s'il n'y a pas un domaine qui a besoin d'être un peu guéri dans nos personnalités. Quelque chose qui a besoin d'être... En tout cas, ramener à la surface, vivifier de nouveau, que nous ne soyons pas comme simplement des gens qui vivent les uns à côté des autres et à côté de ceux qui nous entourent. Encore Matthieu 15, 32, 36. Matthieu 15, 32, 36. Nous allons voir encore que la compassion a conduit Jésus à une action de nouveau. Jésus ayant appelé ses disciples, il dit... Je suis ému de compassion par cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, mais et comment tu veux qu'on aille acheter dans ce bled désert, là, qu'on achète pain pour faire manger une si grande foule? Et Jésus leur a demandé, mais et bon, vous avez quoi? Vous avez combien de pain? Ah, ils ont dit 7, et puis voilà, 2-3 petits poissons comme ça. Alors Jésus fit asseoir la foule par terre, et il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule, et tout le monde a mangé, a été rassasié, il en est resté encore pour toute la semaine, et tout le monde a vu la gloire de Dieu. Non seulement la satisfaction des besoins matériels, mais la gloire de Dieu se manifester. Tout ça, au début, Jésus dit, il explique, Jésus explique à ses disciples comment ça s'est passé. Il leur dit qu'il était ému de compassion. Vous voyez, quelquefois, on est dans une société qui est un petit peu paradoxale. Parce que, sur certains points, on est dans une société ultra romantique où les sentiments sont exprimés à fleur de peau à tout moment. Et par ailleurs, quelquefois, ce qui se passe vraiment de vrai, à l'intérieur, on a de la peine à en parler. Et je trouve intéressant de voir que Jésus était capable de parler clairement de ses sentiments et de ce qu'il ressentait. Il a dit « Je suis ému de compassion pour cette foule ». Et je ne sais pas si... En tout cas, je suis sûr que ça se voyait sur lui. Quand on est très ému, quelquefois peut-être quelqu'un pleure, ou d'autres moins, ça c'est une... Bon, c'est de l'extériorisation, ça prouve rien. Hein, c'est pas le degré d'humidité qui montre, qui révèle quelque chose. Mais en tout cas, ça se voit. Vous êtes changé, vous êtes troublé. Ici, voilà, la compassion de Jésus a amené un prodige. Si nous éprouvons une compassion, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de la même façon que lui, je pense qu'ils vont provoquer, ils vont donner à Dieu la capacité de faire les mêmes choses à travers nous. Il faut que nous soyons changés pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut à travers nous. Et si nous ne le sommes pas, alors la volonté de Dieu ne se fera pas. Si nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est parce que c'est par principe un sujet de prière. On ne peut pas se réfugier, se cacher derrière des slogans tels que « si Dieu veut, si Dieu le veut, ça se fera ». Mais il y a des tas de choses que Dieu veut, que Dieu aime et qui ne se font pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais l'apôtre Paul a dit « mais comment entendront-ils si personne ne prêche ?» Et ça, c'est notre responsabilité. Et si nous ne débouchons pas le canal, s'il est, vous voyez les pubs à la télé, les trucs du calcaire hein, qui se met dans les tuyaux, vous avez vu ça, hein? Et vous mettez une pastille de choses et le calcaire vraiment il disparaît, c'est hein? Qu'est-ce qu'on fait pas, hein? Bon, enfin. Mais le calcaire comme ça peut se mettre à l'intérieur dans nos âmes. Et puis il empêche la compassion de passer. Et alors après on est étonné que notre foi devienne sèche, que notre foi devienne seulement une espèce de foi scripturaire. Et on est étonné qu'elle ne produise pas grand-chose. Mais il nous faut les sentiments de Jésus. Matthieu 20, 29, 34. Hein. Matthieu 20, 29, 34. Hein. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici qu'il y avait là deux aveugles assis au bord du chemin. Et ils ont entendu que Jésus passait. Aussitôt, ils se sont écriés, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait, « taisez-vous, vous nous cassez la tête, là !» Mais criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrête, il les appelle. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ?» Et ils disent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Encore une fois, il y a une liaison entre ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Vous voyez, combien de fois on prie, Seigneur, fais que les aveugles voient, fais que les sourds entendent. Mais peut-être que dans l'ordre, on devrait peut-être d'abord dire, Seigneur, fais que nos cœurs redeviennent vrais. Fais que nos sentiments soient les tiens. Fais que nous ne soyons pas simplement des gens qui sont assoiffés de voir peut-être, je sais pas moi, l'Église grandir. Hein. Assoiffés de pouvoir dire à tous leurs voisins, alors voyez, hein, notre Dieu, hein, il est un peu plus grand que le vôtre, hein. Seigneur, dans l'ordre, change nos cœurs. Dans l'ordre, donne-nous des sentiments vrais. Dans l'ordre, Seigneur, fais de nous comme des petits-enfants qui peuvent éprouver des vrais sentiments. Voyez la foule qui était là, à côté de ces aveugles. Le contraste est tellement saisissant. On croirait une caricature. Voilà ces deux personnes qui sont dans une situation tellement terrible. Hein, parce que aveugle, c'est déjà terrible. Mais aveugle, mendiant, dans une société où il n'y a pas beaucoup d'aide sociale et où ces gens n'avaient rien. Et voilà que quand ils ont entendu que la solution dans la personne de Jésus arrivait, ils ont crié, on aurait dû les encourager, dire, ah oui, tiens, c'est vrai, au fait. Venez vite, attendez, tiens, donne-moi la main, je t'emmène. Les autres disent, ah, vous nous cachez la tête. Bien sûr, eux, ils voyaient. Mais oui. Mais ils nous cachent la tête, ces types-là. Taisez-vous. Mais alors, nous, on veut avoir, oh, le plaisir d'entendre ces suaves paroles, taisez-vous. Alors, mais ils nous cassent la tête, ces gens. C'est terrible, hein. Faut toujours qu'il y ait des gens qui soient là, qui rabâchent leurs problèmes. Mais attends-tu là, toi, le problème? Vous voyez? Et quelquefois, on est étonné de trouver une telle dureté dans nos cœurs. Ou alors c'est que moi, je sais pas, mais des fois je trouve que des fois on est épaté. Alors quitte après, une fois que le miracle a été fait, je suis sûr que tous ceux qui étaient là, qui disaient ouais, ces deux types, ils nous cassent la tête, ils sont terribles, enfin faites-les taire. Quand ils ont été guéris, ah, je suis sûr qu'ils ont après ils ont loué le Seigneur aussi. Alléluia. Alors ils allaient voir les anciens aveugles. Alors super, hein, tu me reconnais, écoute, je m'appelle un tel, tout ça, etc. Mais si on avait compté sur eux pour la compassion, c'est grave, hein. Des fois la compassion, tiens, ça me rappelle un truc. Une fois, quand j'habitais à Grenoble, on avait une cave et j'étais chercher quelque chose à la cave. Et j'ai dit à ma fille aînée, j'ai dit, écoute, tiens, viens avec moi comme ça, parce qu'il n'y avait pas de lumière, tu me tiendras la lampe de poche. Et puis, en bas, dans la cave, il y avait une espèce de vieille armoire, un truc sèche-linge comme ça. Et fallait que je le déplace pour prendre quelque chose derrière. Donc j'ai remué, c'est pas très lourd, mais c'est quand même un peu lourd, hein, comment. Et j'ai commencé à remuer l'armoire sèche-linge. Ce que je savais pas, c'est que la personne précédente avait jugé bon de mettre le moteur sur le sommet de l'armoire, comme ça, dessus, en équilibre. Évidemment, dans l'ombre, je ne l'ai pas vu, quoi. Alors, j'ai commencé à remuer le truc, et tout d'un coup, j'étais tout en bas, comme ça, le truc m'est tombé plein sur la tête, comme ça, là. Bang! Oh, pauvre, j'étais assis par terre dans le truc, à moitié assommé. Et alors, ma fille, quand il se passe quelque chose de tragique, comme ça, ça la fait rire. Non, c'est nerveux. C'est nerveux. Mêlerie. Alors moi j'étais là, j'ai cru que je me demandais si j'avais déjà maintenant deux têtes ou plus qu'une. Elle était morte de rire comme ça. Oh papa, tu as mal, oui tu as mal. Ah ben j'ai dit, toi tu fais vraiment une crise de compassion aiguë là, hein. Fais gaffe, hein, ça va t'étouffer, ça va être dangereux. Mais en même temps elle était désolée, ouais. Bon, c'est, je ferme la parenthèse. Non, la compassion produit quelque chose de réel. Si nous ne voyons pas la misère autour de nous, est-ce que pour autant elle n'existe pas? Ou est-ce qu'on s'y est suffisamment habitué? On va revenir sur ça encore. Marc 1, 40, 41. Un lépreux vint vers Jésus, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur, hein ?» Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. La compassion de Jésus lui a fait mobiliser sa volonté. Notez bien ça. La compassion lui a fait mobiliser sa volonté. Il a dit, je le veux. Vous voyez, c'est la grande différence entre la véritable compassion et la pitié. La pitié ne produit rien. Elle est simplement un sentiment qui, quelque part, déculpabilise. On regarde une situation difficile, on pleure un petit coup, peut-être même. Et puis voilà, comme ça, comme on a pleuré, on pense qu'on est dédouané de toute action. Mais ça, c'est illusoire. La compassion, la véritable compassion, a amené Jésus à mobiliser sa volonté. Dieu nous a donné une volonté. Il n'y a que l'homme sur la terre qui a une volonté. Les animaux n'ont pas de volonté. Ils n'ont qu'un instinct qui leur permet de programmer des réactions. Mais le chien a été programmé pour remuer la queue quand vous lui donnez un os. C'est un instinct. Mais si c'est plus le même qui lui amène l'os, il remuera la queue pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est son programme. Il peut pas faire autrement. Parce qu'il est programmé. Mais Dieu nous a donné une volonté. Et nous sommes responsables de gérer notre volonté. Nous pouvons vouloir. Ça va? Bon. Jésus était ému de compassion. Il a dit, à la suite de ça, il a dit, je le veux. Et le lépreux a été purifié. Encore, Marc 9, 17. Vous voyez, on s'aperçoit, en faisant la liste comme ça, on s'aperçoit que la compassion a réglé toutes les sortes de problèmes. Qu'elle est impliquée, en tout cas, dans toutes les sortes de problèmes. Les miracles, les prodiges, les guérisons physiques, les aveugles, les lépreux, qui, au sens de l'Ancien Testament, n'étaient pas une guérison, mais une purification, c'est très différent. Et ici, dans ce passage, on va avoir affaire à un problème avec un esprit méchant. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Bon, amenez-le-moi. Alors on lui amène. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit qui était à l'intérieur l'agita avec violence. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que ça lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent même, l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Cet homme a dit, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écrie, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, vous voyez, c'était un esprit muet qui criait bien. Et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Vous voyez, cet homme a fait appel à la compassion de Jésus. Il a dit, aie compassion de nous, aie compassion de nous. Après, il disait, si tu peux. Tout à l'heure, le lépreux disait, Jésus lui avait dit, je le veux. Mais là, c'était, est-ce que tu peux? Jésus peut. Mais il a voulu l'amener vers la foi. Vous voyez, Jésus, quand on a dit à Jésus, aie compassion, Jésus a répondu, il n'a pas dit, je vais avoir de la compassion. Il l'a amené sur une leçon de foi. Donc ce passage nous montre qu'il y a une liaison entre les sentiments justes que Dieu veut faire grandir en nous, les sentiments et la compassion, qu'il y a une relation entre la compassion et la foi. Ce passage le montre clairement. Et compassion, Jésus a dit, ah, alors il faut croire. Ça va, vous me suivez? L'homme a dit, et compassion, Jésus a dit, alors il faut croire. Si tu crois. Nous déplorons souvent, enfin moi en tout cas, nous déplorons que nous manquons de foi. Mais qu'est-ce qui nous empêche de développer de la foi? Alors que nous sommes en relation avec celui qui est le consommateur de la foi et celui qui veut l'amener, la réaliser pleinement en nous et qui vit en nous. C'est finalement, on se dit, mais c'est curieux, pourquoi alors la foi ne se développe pas? Si elle se développe pas, c'est parce qu'il y a du calcaire dans les tuyaux. C'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche la compassion de se développer réellement. Et il faut que nous amenions ces choses devant la face de Dieu pour que nos cœurs soient purifiés, pour que nous soyons rendus capables. Je passe rapidement, on va pas lire Jean 11, 35. Quelques-uns ont appris ce verset par cœur, après de longues luttes avec leur mémoire. Non, Jean 11, 35. Jésus pleura. Oui, c'est assez. Si vous devez apprendre un verset par cœur, choisissez celui-là. Jésus pleura et Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jésus a pleuré devant un homme qui était mort, mais que Jésus savait ressusciter. Pourquoi est-ce que Jésus pleurait? Mais parce qu'il est un homme normal. Un homme normal pleure devant le tombeau de son ami qui est mort. Enfin, je vois même pas pourquoi on se pose la question. C'est tellement naturel, c'est normal. Même s'il sait qu'il va le ressusciter, c'est triste la mort de quelqu'un. Même nous, quand nous voyons quelqu'un, nous allons quelquefois au cimetière. Quelquefois nous emmenons, hélas, au cimetière quelqu'un de nos proches qui nous était cher. Et on sait qu'il est avec le Seigneur. Mais est-ce que pour autant on n'est pas triste? Bien sûr qu'on est triste, c'est normal d'être triste. Une fois j'étais un peu fâché, j'étais comme ça dans à la fin d'une inhumation, et puis il y avait des gens qui pleuraient comme ça, et une chrétienne bien intentionnée est venue, leur faisait un petit peu la leçon, le disant que, mais non, pourquoi vous pleurez? Vous devriez pas pleurer. Vous savez qu'il était chrétien, il est avec le Seigneur, etc. Je dis, mais arrête tes histoires, tu nous casses la tête, là. Mais, enfin, c'est normal de pleurer. C'est légitime de pleurer. C'est pas parce qu'on sait que quelqu'un est avec le Seigneur que c'est pas triste pour nous qui sommes ici. C'est lui qui a la bonne part, nous. C'est normal qu'on pleure.
Moi, si je peux choisir, j'aime mieux être là-haut. Enfin, je vous aime bien tous, mais je veux dire, mais on aime mieux être au ciel. En attendant, on est ici. Chaque fois que quelqu'un y va avant nous, ben, moi, je trouve ça... C'est ça qui est triste, c'est que nous, on reste. Ça, mes idées. Mais enfin, je vais avoir après avec lui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est légitime. Vous voyez, quelquefois, certaines personnes ont fait de la foi ou de la spiritualité une espèce de truc qui est déshumanisé, idéalisé comme ça, comme si on n'était plus. Mais on est ici, c'est normal. Jésus pleura. Encore Luc 19, 41, 44. Hein. Comme il approchait de la ville, donc Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Jésus pleurait. C'est pas parce qu'il connaît pas la fin de l'histoire. C'est pas parce qu'il connaît pas la fin glorieuse de tout ça. C'est pas parce qu'il ignore quelque chose. C'est pas parce que ce jour-là il était découragé. Mais parce que c'était légitime. Il nous faut apprendre ou réapprendre à vivre avec les gens qui nous entourent. Luc 4, 18, 19. Encore, on va lire encore ce verset-là. Voilà. Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur, dit Jésus, présentant en quelque sorte son programme, son ministère, le pourquoi il est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Le mot qui m'intéresse le plus dans ce passage, c'est dans le verset précédent, c'est quand il a parlé des cœurs brisés. Jésus a dit pour guérir les cœurs brisés. Bien, il a guéri aussi les corps, les malades. Mais vous savez, des fois, quelqu'un qui a le cœur brisé, eh ben, il aimerait mieux avoir une jambe brisée. Il aimerait mieux se casser quelque chose, même peut-être un peu définitivement. Mais un cœur brisé, c'est horrible. Même avec une bonne santé, même avec une fortune, même avec tout ce que vous voulez autour, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu s'intéresse au cœur brisé. Dieu s'intéresse à nous. Jésus avait de la compassion pour ça. Moi, je trouve c'est tellement beau que Jésus qui vient annoncer son programme n'y a pas ajouté un mot qui irait en faveur des grands de ce monde, des riches, des forts, des puissants, etc. Mais il a parlé des pauvres, des malades, de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui ont besoin de délivrance, de tous ceux qui ont besoin de compassion. C'est le cahier des charges de sa mission. Il est venu pour cela. Est-ce que nous pouvons faire autrement? Est-ce que nous pouvons faire autre chose? Est-ce que nous pouvons nous donner un autre but? Est-ce que nous pouvons oublier ce caractère-là? Jésus a dit par ailleurs que quand les envoyés de Jean-Baptiste lui ont demandé de la part de Jean-Baptiste, mais est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit encore attendre quelqu'un d'autre? Parce que les Juifs pensaient quelquefois que il y aurait le prophète dont avait parlé Moïse, mais qu'un autre viendrait aussi avant. Ils étaient un peu dans le flou quand même. Et maintenant que Jean-Baptiste était tout seul, croupissant dans son cachot, alors ça lui était difficile. Il y a des choses qu'il avait dites qu'il n'avait pas vu accomplir. Il avait vu Jésus, oui, il savait, guérissait des malades, mais il avait dit aussi, c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit de feu. Ça, il n'avait pas vu. Il ne savait pas encore. Alors il dit, mais est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et Jésus lui a dit tout ce qu'il avait fait. Il lui a rappelé les miracles, tout ça. Et à la fin, Jésus conclut, et je pense que c'était l'argument qui pouvait encore le mieux convaincre Jean-Baptiste. Et il a dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein. Il dit, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein. Jésus est venu pour s'intéresser aux pauvres. Hein. Jésus dit, quand tu invites des amis, invite au lieu d'inviter ceux dont tu es sûr qu'ils te rendront une belle invitation. Hein, essaye de temps en temps d'inviter ceux dont tu es sûr qu'ils ne pourront pas le faire. Invite des insolvables. Hein. Invite des pauvres. Hein. C'est-à-dire, ne fais pas les choses avec la mentalité d'un retour. Hein. Mais quand tu dis que tu donnes, fais en sorte que ce ne soit pas un investissement, mais que ce soit vraiment un don. Fais-le vraiment pour la personne qui est en face. Maintenant, si quelqu'un veut un jour m'inviter, je viens quand même. Bon, le pauvre, Jésus a parlé du pauvre Lazare. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est peut-être une des plus longues paraboles que Jésus a racontées. Et c'est pour justifier un pauvre. Hein. C'est pour justifier quelqu'un dont les compatriotes n'avaient pas compassion. Vous voyez encore cette caricature. Hein, il devait se débrouiller pour ramasser les miettes, c'est-à-dire, c'est le sens figuré, c'est les restes. Il devait survivre hein, en mangeant des restes, parce que les autres n'avaient même pas remarqué qu'il était là. On l'avait même pas vu. Il était perdu. Jésus a parlé à honorer la pauvre veuve qui avait donné plus que tout le monde avec une piécette. Jésus a honoré les étrangers que tout le monde méprise. Hein, il a donné un tel tableau d'honneur à ce bon samaritain. L'apôtre Paul dira dans Romains 12-15, pleurez avec ceux qui pleurent. Hein. Il n'a pas dit, s'il y en a parmi vous qui pleuraient des fois, allez leur expliquer qu'ils ne sont quand même pas très spirituels, ils devraient être au-dessus de tout. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, si quelqu'un est dans la douleur, s'il est dans la souffrance, eh bien, il a droit à ce qu'on lui montre de l'attention. Il a droit de la compassion. Il faut aller le voir. Il ne faut pas lui faire la leçon. Il ne faut pas forcément lui faire une étude biblique. Il faut lui montrer qu'on l'aime. Quand Job était dans la peine, ses trois amis sont venus et pendant une semaine, ils l'ont vraiment réconforté. Vous savez pourquoi? Parce que la première semaine, ils n'ont rien dit. Et ça lui a vraiment fait du bien. Job était content. Il s'est dit, voilà, j'ai trois amis, vraiment, c'est des types comme ça. Ils ont fait un déplacement terrible, ils ont pris du temps, ils sont assis à côté de moi, ils sont là, ils restent à côté de moi, ils souffrent avec moi. Ça, c'est des amis extraordinaires. Au bout d'une semaine, ils ont ouvert la bouche et ils ont anéanti la bonne impression qu'ils avaient fait jusque-là. S'ils étaient partis ce jour-là, simplement, en lui tapant sur l'épaule, mais Job aurait été réconforté par eux. Il aurait dit, ah, c'est des amis, incroyable, vous savez, moi j'ai des amis. Il aurait été fier de ses amis, mais après il a dû encore se battre avec eux. À la fin, il leur a dit, allez, taisez-vous, allez, filez. Et Dieu aussi leur a dit la même chose. Vous savez, des fois on peut perdre le sentiment de la compassion, ignorer la souffrance des gens. Un jour, j'étais chez un dentiste. Alors, dès qu'on parle de souffrance, hein, on dit dentiste, là, tout le monde est pas bien. Hein? J'étais chez le dentiste, et c'était un rigolo. Alors il m'a dit, bon, si vous avez mal, vous levez la main. Alors il a commencé. Alors j'ai levé la main, il me dit, ah, vous avez remarqué. J'étais comme ça. Ah, vous avez remarqué. Il dit, mais tu penses. Lui, c'est pas lui qui souffrait. Alors ça me faisait sourire. Ah, vous avez eu mal, là, hein? Un jour, j'ai été vraiment perturbé. Un dimanche matin, je sais pas si on allait au culte ou si on revenait, je sais pas. Mais il y avait un monsieur là qui nous a fait signe, on était en voiture. Un monsieur était là sur le trottoir, l'air vraiment, vraiment spèce, vraiment bizarre, des réactions bizarres, et il nous faisait signe. Alors, je me suis arrêté. Et je comprenais rien de ce qu'il me disait. Il me parlait d'une façon confuse. Il voulait aller, je ne sais où. Je dis, bon, ben, montez, je vous emmène. Alors, on l'a emmené. Et il voulait aller chez un médecin. Donc, on a trouvé l'adresse et devant le médecin. Mais c'était un jour férié. Je dis, mais monsieur, mais ce médecin ne vous recevra pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fermé. Il n'est pas là. Oui, je ne sais pas. Je ne comprenais rien. Finalement, il est descendu. On l'a laissé là devant cette allée tout hébété, tout ahuri, et je savais pas quoi faire après. Après on est parti, et puis ça m'a travaillé toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire pour lui? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et franchement, je savais pas. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il veut, et peut-être lui non plus d'ailleurs. Je savais, mais il me paraissait tellement malheureux, ça me faisait de la peine, et en même temps, je savais pas quoi faire. Peut-être j'aurais dû faire quelque chose de plus, je sais pas. La Bible nous dit, voyez, hein, que la compassion va nous amener à faire des choses qui vont nous bousculer, qui vont nous désarçonner, qui vont changer des habitudes. Alors, très rapidement, pourquoi nous pouvons l'avoir perdue ou l'avoir diminuée? Beaucoup de raisons. Une, c'est par l'habitude. On peut prendre l'habitude de voir des choses difficiles. Et on s'y habitue. C'est le problème, par exemple, des infos. Vous regardez les infos et tous les jours, vous voyez des choses bizarres. Hier, on voyait quasiment des gens dans la guerre là-bas en Géorgie, on voyait quasiment des gens mourir en direct. On s'habitue à voir des choses comme ça. Et ce qui est très dommageable, c'est pas que c'est une information, mais c'est que c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise, aucune réaction possible. Et ça, c'est un risque, c'est que si on ne fait pas attention, ça nous anesthésie dans notre capacité d'avoir de la compassion. Une autre chose, c'est qu'on peut perdre de la compassion par endurcissement. C'est par exemple le problème de tous les gens qui ont un métier qui les met en vis-à-vis avec la souffrance de manière très régulière. Les gens, par exemple, je ne sais pas moi, les secours d'urgence sur autoroute. Vous voyez, ce que ces gens voient, les SAMU d'urgence sur autoroute, ce que ces gens voient tous les jours, c'est indescriptible. Hein. Alors à force, ben ils finissent par devenir, ils peuvent, hein, c'est un danger, c'est pas tous, je veux dire, hein, mais c'est un danger possible. On peut devenir dur, incapable d'éprouver des sentiments. On peut perdre de la compassion par négligence. Hein. Par négligence. Parce que quand Dieu nous a demandé de faire quelque chose, parce qu'on devait faire quelque chose, on l'a pas fait. Alors, comme on le fait pas, on étouffe la compassion. On marche dessus. Et la fois d'après, on en éprouve un peu moins. Et la fois d'après, on en éprouvera un peu moins. Et puis après, on pourra regarder n'importe quel spectacle les plus tragiques. On pourra passer à côté, ça nous fera rien du tout. On pourra peut-être même penser qu'on a fait des progrès, on est devenu adulte, etc. Hein? Alors, on cherche à se justifier de ça en disant, par exemple, c'est les slogans, on dit, ah oui, mais si on devait tout faire, on peut pas tout faire. C'est vrai qu'on peut pas tout faire. Hein? On peut pas tout faire, mais il suffit de faire tout ce qu'on peut. On peut pas tout faire. Il nous suffit de faire tout ce que nous pouvons. On peut perdre de la compassion à cause des blessures. Ça, c'est très réel aussi. Des gens qui ont été tellement blessés, qui ont souffert tellement profondément et qui souffrent encore tellement, sont quelquefois, par leur souffrance, ramenés continuellement à leur seule souffrance intérieure. Et ils deviennent incapables, à ce moment-là, seulement de constater et de voir la souffrance des gens qui sont autour d'eux. Et ces gens-là, il faut pas les condamner, il faut pas leur en vouloir. Il faut pas trop facilement dire, oui, c'est quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Quelquefois, s'il pouvait arriver à penser à autre chose, il voudrait bien aussi. Il voudrait bien aussi. Mais il a besoin d'être guérison et souvent il a besoin d'un miracle. Hein. Mais nous croyons au miracle. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leur compassion par ignorance. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que la misère existe. Hein. Alors quelque part, dans certains cas, ils sont un peu responsables parce qu'ils ne cherchent pas à le savoir. Ils veulent rien savoir. Et c'est le cas, par exemple, dans la Bible, vous avez l'histoire d'Esther. Esther était dans son palais, hein, c'est un peu une tour d'ivoire, elle était dans son palais, et elle savait même pas que son peuple était promis un génocide, qui avait été programmé, vraiment un truc vraiment systématique, elle savait pas. Et tout d'un coup, ça lui est arrivé en pleine figure, comme ça. Alors là, elle a commencé à se demander ce qu'elle devait faire. Hein. Mais auparavant, elle savait pas. Et vous avez des parents qui ont quelquefois éduqué leurs enfants en ne permettant pas qu'ils puissent jamais être choqués par quoi que ce soit. Ils les ont marginalisés de la souffrance. Hein. Non, non, tout va bien. Nous sommes dans un monde merveilleux. Il se passe rien. Et on a évité tout ce qui pouvait leur faire voir. Et c'est pas une bonne éducation. Bien sûr, il ne faut pas il ne faut pas leur montrer des spectacles et des choses qui peuvent perturber, les traumatiser dans leur cœur. Mais ce monde est un monde difficile. Et il faut que les parents apprennent à leurs enfants à vivre dans un monde difficile et à survivre dans un monde difficile. Et on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas le nier, c'est pas possible. Il y a aussi des gens qui ont, je voulais juste revenir sur ça tout à l'heure, il y a des gens qui ont piétiné leur compassion. Vous savez, moi je pense que ça s'adresse souvent plus aux jeunes qui regardent, par exemple, beaucoup de films dans lesquels il y a beaucoup de violence. Des films, il y a beaucoup de violence et quelquefois... pas seulement de la violence, mais quelquefois même de la violence gratuite, de la violence avec vraiment de la méchanceté, du sadisme. Et je pense que, je ne veux pas vous donner des conseils, mais franchement, les gens qui s'habituent à regarder des films comme ça, hein, des trucs vraiment gore comme ça, vous faites du mal. Hein. Et vous faites du mal à votre capacité d'avoir de la compassion. Parce que vous vous habituez à c'est comme un programme de désensibilisation progressive. Vous vous désensibilisez d'être capable d'éprouver des bons sentiments. Si vous pouvez regarder un film où les gens se coupent en morceaux tranquillement et que ça vous fait rien, je pense que vous avez déjà besoin d'être un peu guéri quand même. Faites attention. Faites attention, la Bible dit que tout ce qui est pur, saint, honorable, etc. soit l'objet de vos pensées. Et ça ne rentre pas dedans. Les films d'horreur, les films violents, etc. Je pense que c'est pas bon. C'est pas bon. Ça vous fait pas du bien. Quand Dieu voudra vous mettre quelque part pour vous éprouviez vraiment de la compassion pour la misère de ceux qui vous entourent, vous allez avoir du mal. Parce que vous n'y êtes pas préparé. Ou plutôt, vous vous êtes préparé à l'inverse. Donc, je pense qu'il faut faire bien attention à ça. Voilà, je termine rapidement en reprenant la question que je posais tout à l'heure. Quelle est la dernière fois où Dieu nous a vraiment montré quelque chose qui a touché nos cœurs, hein? Quelle est la dernière fois, allez, je pose la question, quelle est la dernière fois où tu as pleuré sur quelque chose, sur un malheur de quelqu'un qui t'entoure? Mais pas sur le tien, hein, parce que pleurer sur nous, ça on y arrive assez bien. Mais pleurer avec compassion, pleurer sur les difficultés, sur le malheur, sur la souffrance de quelqu'un d'autre, hein? Même si c'est pas pleurer avec des larmes, mais c'est pleurer intérieurement. Est-ce que nous restons accessibles? Est-ce que Dieu peut encore nous parler? Je crois qu'il nous faut ne pas oublier ce que nous avons vu ce matin. C'est que tout ceci est en liaison réelle, en liaison dynamique, réelle, productive, avec la foi, avec la capacité de croire que Dieu agit. Avec la capacité d'être utilisé par Dieu pour guérir, faire des miracles, restaurer les cœurs brisés. Vous avez des gens qui veulent faire de la relation d'aide et eux-mêmes, leur cœur n'est pas clair avec ça. Vous n'irez pas loin avec ça. Il nous faut restaurer les autres, les aider, je veux dire, dans leur souffrance. Est-ce que la souffrance des gens nous fait quelque chose? On peut s'habituer, on voit tellement dans la rue, si vous allez dans le centre-ville, vous voyez toujours, tous les jours, vous voyez des mendiants, des SDF, on s'habitue, on dit « Oh, pff, c'est... » Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, on ne peut pas laisser n'importe quoi. L'autre jour, ça m'a... Après, j'avais honte, mais c'est pareil, c'était difficile. Une fois, j'avais prêché ici sur aimer l'étranger, le bon samaritain. Et à la fin, il y avait des gens ici dans l'église qui faisaient la manche d'une manière... Des choses que nous avons décidé qu'on ne peut pas laisser faire ici. Parce que c'est pas juste. Parce qu'après, il y a des pratiques qui sont pas justes, qui sont pas claires. Et alors j'ai demandé à cette personne de sortir, et après ma femme a dit « Oui, mais quand tu lui as dit ça, il y a des gens qui te regardaient, tu venais à te prêcher sur le bon samaritain et tu mets des étrangers dehors. » C'est vrai, c'est difficile. J'ai pas dit que les choses sont faciles. Je dis que ce qu'on doit régler, c'est la qualité de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est la qualité de notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on devient naïf. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on distribue tout de manière comme ça, inconsidérée. Mais ce qu'on va faire, on va le faire parce que l'amour de Dieu nous presse. Est-ce que nous pouvons encore être accessibles à la compassion? Est-ce que le cœur de Jésus bat en nous? Les sentiments de Jésus sont en nous. Ne nous laissons pas notre vie... moderne, où l'efficience est toujours la seule qualité mise en priorité. C'est pas seulement l'efficacité qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les gens. C'est ce que les gens vivent, c'est ce qu'ils ressentent, c'est leur joie, leur bonheur. On est là pour ça. Jésus a dit, je suis venu pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, hein, pour que ceux qui ont le cœur brisé soient restaurés. Que Dieu nous aide à vivre dans cette dimension avec lui, pour qu'il puisse faire les mêmes résultats. Seigneur, nous te bénissons de pouvoir te regarder, toi, comme notre modèle parfait, divin, Seigneur. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu nous as aimés et que tu as eu compassion de nous. Et nous voulons aussi avoir compassion de tout ce qui nous entoure. Nous ne voulons pas jamais, Seigneur, que le froid s'installe dans notre cœur ou des comportements de convenance. Garde-nous, Seigneur, de la convenance de comportements religieux, dits spirituels. Seigneur, garde-nous, Seigneur, vraiment spontanés, libres, accessibles. Merci, Seigneur, notre Dieu. Je te prie pour tous ceux ce matin qui ont besoin d'être restaurés dans la compassion, qui doivent s'apercevoir aujourd'hui que, finalement, comme je pense quelques-uns le pensent maintenant, ils se disent, oui, bon, c'est vrai que moi, il n'y a pas grand-chose qui peut m'émouvoir aujourd'hui. Eh bien, tu as besoin d'être changé. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être restauré. Ton état n'est pas un état normal. Même si ça te laisse survivre tranquillement, ce n'est pas un état normal. Prie Dieu. Demande au Seigneur qu'il te change, qu'il enlève cette dureté. Je voudrais aussi prier pour tous ceux ce matin qui souffrent pour différentes raisons, comme on l'a parlé tout à l'heure, des questions de deuil, d'absence, de souffrance, des couples qui sont dans une situation dramatique, les malades, toutes sortes de difficultés intérieures, des oppressions dans la tête, la tristesse. Seigneur, nous avons de la compassion pour tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui sont dans ces difficultés. Mais nous ne sommes pas sans recours. Hein, et nous te prions, Seigneur, encore maintenant, au nom de Jésus-Christ, hein, que la puissance de ta grâce agisse, hein, dans les cœurs de tous ceux-là, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, hein, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus, soyez bénis maintenant. Amen.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.